Vie locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi-quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
Au sommaire du pédalo, ce soir, un nouvel épisode de la série L'eau, un enjeu de société, en partenariat avec la Frappe. Aujourd'hui, c'est Alternante FM qui nous propose un très beau sujet sur la reconquête du bon état de la qualité des milieux aquatiques de l'Erdre et de ses affluents. On va au-delà de la qualité de l'eau pour aller jusqu'aux berges, aux affluents donc, et la biodiversité. On écoutera également un conte, puisque c'est l'été, alors on se détend et on écoute des histoires, une histoire de princes et princesses, pas tout à fait comme les autres, vous vous en doutez un petit peu, c'est un collectif de Mulhouse qui a réalisé ce conte radiophonique, on vous propose ça en deuxième partie d'émission. Voilà, vous savez tout, alors ajustez votre gilet de sauvetage, le pédalo part à l'abordage.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Le syndicat mixte L'Éden, entente pour le développement de l'Erdre navigable et naturel, est chargé de coordonner la reconquête du bon état de la qualité des milieux aquatiques de l'Erdre et de ses affluents. On a une approche qui va donc au-delà de la seule question de la qualité de l'eau et qui se penche sur l'eau, les berges, les affluents et la biodiversité. Michel Sourget, de Alternante FM, a échangé avec Yuen Fenard, directeur de L'Éden, au fil d'une déambulation sur la rive droite de l'Erdre à Nantes. Pardon. Yuen Fenard nous éclaire sur les notions de propreté, de qualité de l'eau et plus largement de santé écologique d'un bassin versant approché dans son intégralité. C'est un reportage qui sera suivi ensuite d'une interview de M. Simon Dufour qui est géographe, enseignant-chercheur à l'université Rennes 2. Simon Dufour nous expliquera les démarches des scientifiques pour étudier les cours d'eau.
Seuls 11% des masses d'eau de la région sont en bon état écologique. L'eau, un enjeu de société. Une série spéciale de la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Si vous deviez qualifier la qualité de l'eau de l'Erdre,
je la trouve meilleure que par rapport à quelques années, je crois. Mais bon, je suis pas un fin connaisseur. Mais moi qui me balade le long très souvent, je me rends compte qu'elle fait un peu plus propre. Mais bon, après, pour me baigner là-dedans, j'irai pas. Ni dans la Loire.
Quand vous dites elle fait un peu plus propre, qu'est-ce que ça veut dire?
Je la trouve un peu plus claire par moment. Alors après, je trouve qu'il y a peut-être moins de saleté dedans, moins de déchets peut-être.
Pour vous, une eau propre, c'est une eau claire?
Ah bah, je peux me tromper aussi, hein. Pour moi, clair, c'est propre, oui, mais bon, après, il faudrait qu'on trouve quelqu'un qui puisse m'expliquer vraiment le truc. Mais après, pour aller me baigner là-dedans, puis à mon âge maintenant, il faut être plus jeune.
Pour éclairer Jean-Claude et nous éclairer sur ces notions de propreté, de qualité de l'eau, de santé écologique, interrogeons Yuen Fenard, directeur de l'Éden, entente pour le développement de l'Erdre navigable et naturel, un syndicat mixte chargé de coordonner la reconquête du bon état écologique de l'Erdre et de ses ruisseaux affluents.
Il ne faut pas confondre la qualité de l'eau avec la qualité des milieux aquatiques.
Oui, ça c'est un concept qu'on essaye d'expliquer régulièrement parce qu'il n'est pas forcément immédiat. Nous, l'Éden, notre objectif, c'est de retrouver le bon état des milieux aquatiques. Et le milieu aquatique, c'est tout le territoire, c'est l'eau, c'est les berges, c'est les affluents, la biodiversité qui vit dans la rivière. Et dans cet ensemble, les milieux aquatiques, il y a la qualité de l'eau telle qu'on la connaît, c'est-à-dire est-ce que l'eau est polluée ou pas. Mais l'approche est plus large que cette seule qualité de l'eau, même si la qualité de l'eau est un enjeu qui est important. Mais on a tendance à dire souvent qu'on pourrait avoir par exemple une rivière qui a dedans une eau de qualité parfaite, une eau de notre piscine, une eau potable. Et pourtant, ce serait une rivière qui ne serait pas forcément en bon état écologique parce que cette eau, même dans sa qualité parfaite, ne serait pas forcément le support d'une biodiversité ou d'une vie biologique normale parce qu'il pourrait, par exemple, y avoir des barrages qui empêchent la reproduction des poissons ou des berges canalisées qui empêchent la nidification de ces mêmes poissons, les micro-organismes de se développer, etc. Donc, c'est toute cette différence entre la qualité de l'eau. Enfin, c'est pas une différence, c'est toute cette complémentarité entre cette qualité de l'eau qui est elle-même une des briques critique indispensable de la qualité des milieux aquatiques. Et c'est ce système global dont on recherche in fine la qualité.
Pensée locale, un enjeu de société.
Un mot à définir, l'eutrophisation.
L'eutrophisation, là encore, un concept qui n'est pas forcément complètement intuitif. L'eutrophisation, c'est un déséquilibre. C'est un cours d'eau qui va avoir trop de nutriments. Alors effectivement, on peut avoir tendance à dire, dans un jardin, plus il y a de nutriments, plus les plantes sont en bonne santé, plus les plantes sont grandes, etc. Cet équilibre, il n'existe pas forcément dans les rivières. Et si on a trop de nutriments, donc ces nutriments sont surtout l'azote et le phosphore, on va avoir des développements d'algues, des algues comme on l'entend, des macro-algues, des grandes algues, ou des micro-algues, des algues microscopiques, qui peuvent, suivant les quantités, finalement se développer très vite, et ou dans le cas des macro-algues, obscurcir complètement, c'est-à-dire le soleil ne va pas aller jusqu'au fond et vous allez changer le fonctionnement de la rivière, et ou dans la vie biologique des plantes, ça consomme de l'oxygène et appauvrir complètement le milieu en oxygène. Donc l'eutrophisation, c'est ce phénomène lié à la concentration, à la surconcentration en nutriments qui dérègle et qui appauvrit finalement les milieux là où on pourrait se dire qu'on les augmente. Elle revient vite, cette notion du propre, en fait, qui est bien compréhensible, mais qui n'est pas appropriée à ce qu'on cherche. Si on montre des photos d'un cours d'eau en bonne santé écologique et d'autres cours d'eau qui peuvent être considérés comme très dégradés, la question du propre va peut-être être beaucoup plus proche des cours d'eau tout droit, bien entretenus, bien dégagés, alors que pourtant, on ne considère pas ça des cours d'eau en bonne santé qui pourraient avoir des branchages qui sont dans l'eau, des bras morts avec une eau un petit peu stagnante, qui ne sont pas propres. Et donc, cette notion de propre, il faut savoir qu'elle existe, mais il faut un peu travailler avec et peut-être la déconstruire ou remonter aux sources pour reconstruire autre chose.
Jean-Claude, profitez du soleil. Et si vous vous baignez, il suffit de pas boire la tasse, c'est tout.
C'est fini, ça. Ah, on en discutera.
L'eau, un enjeu de société. Une série spéciale de la Frappe en partenariat avec Terre des Sciences, avec le soutien de la région des Pays de la Loire.
L'expertise de Yuen Fenard s'appuie bien évidemment sur des connaissances issues d'études menées par les scientifiques, parmi lesquelles le géographe Simon Dufour, enseignant-chercheur à l'université de Rennes 2. Joint par téléphone, il nous précise le cadre et la conduite de ses recherches.
Je travaille sur les cours d'eau, les rivières, plutôt en région tempérée, en France, aussi un peu en région méditerranéenne. Et puis, je travaille beaucoup, en fait, sur le cours d'eau, mais sur ses relations avec tout ce qu'il y a à côté du cours d'eau, c'est-à-dire la berge, les zones humides, toute la végétation qui pousse sur les bords de berge, les relations, comment par exemple la végétation fait de l'ombre à la rivière, comment les inondations modifient la végétation. Et je regarde donc à la fois les aspects paysagers, j'étudie aussi comment on gère le cours d'eau, la zone humide, la végétation, comment on restaure aussi, que ce soit la restauration écologique avec des objectifs de biodiversité, mais aussi comment est-ce qu'on essaye de restaurer ces milieux-là pour gérer la ressource en eau. Et puis enfin, je travaille aussi sur les outils, les méthodes, les indicateurs, les technologies qui permettent d'étudier, de caractériser les cours d'eau, que ce soit par cartographie, par télédétection, par exemple avec des drones ou des choses comme ça, donc un petit peu sur le volet méthodologique, comment est-ce qu'on peut produire des indicateurs qui vont aider à la fois les scientifiques et les gestionnaires à mieux connaître ces environnements qui sont un peu particuliers.
À quelle fin ?
Les principaux objectifs, ça va être un objectif plutôt de restauration de la qualité écologique des cours d'eau. On sait que, par exemple, le fait qu'il y ait une végétation de berge et une répisylve en bon état le long du cours d'eau, ça va aider lui-même le cours d'eau à être en bonne qualité, que ce soit au niveau de la qualité ou que ce soit au niveau des habitats, de la faune, de la flore. S'il y a, par exemple, de la végétation avec des petits troncs d'arbres, des choses comme ça, ça peut favoriser, améliorer la diversité des poissons, des insectes, etc. Donc, il y a à la fois une vocation, enfin, un objectif final qui est plutôt l'amélioration de la qualité écologique du cours d'eau, au sens de la diversité des habitats, des espèces présentes, etc. Et après, il y a aussi un volet, moi je le mesure pas vraiment, mais plutôt sur la gestion de l'eau en général, par exemple, quand on restaure une zone humide, évidemment ça va avoir des intérêts au niveau de la biodiversité, mais en fait ça va aussi jouer un rôle d'éponge accrue, donc ça va stocker de l'eau quand il y en a trop, ça va la restituer quand il n'y en a pas assez. Personnellement, moi, je ne mesure pas l'hydrologie ou la quantité d'eau, mais parfois, je participe à des projets où des collègues font ça pour voir justement sur les questions de quantité et de qualité d'eau dans les cours d'eau, comment ça se passe. Donc, c'est surtout ça, moi, c'est sur quoi je travaille.
Comment vous procédez au niveau de vos recherches et qu'est-ce qui vous autorise à penser que ou à penser à ?
Voilà, c'est une vaste question. Alors, comment est-ce qu'on travaille ? Donc, il y a plusieurs façons de travailler. En gros, moi, dans le domaine où je suis, il y a un peu trois types d'approches. Il y a d'abord, et c'est plutôt la majorité, des approches de terrain in situ, des mesures, des observations qui sont faites le long des rivières. Donc, je ne sais pas, par exemple, un endroit où on va restaurer un cours d'eau, c'est-à-dire en gros, le cours d'eau avait été modifié, transformé, dégradé, la diversité d'habitats n'était pas satisfaisante, la qualité de l'eau non plus. Il va y avoir un programme de restauration. Je ne sais pas, on va reméandrer le cours d'eau, c'est-à-dire on va lui redonner une forme avec des sinuosités. On va le refaire passer à l'endroit où il était historiquement. On va aussi le reconnecter à la plaine. Donc là, typiquement, dans ce genre de situation-là, on va faire des observations de terrain avant. Donc, je ne sais pas, on va regarder la forme du cours d'eau, on va regarder la diversité des habitats, on peut faire des relevés de flore, on va regarder les espèces qui sont présentes. Et puis, après les travaux de restauration, on va revenir et on va refaire les mêmes observations. Et puis, on va dire, ben voilà, si je compare avant, après les travaux, eh bien, je vois que après les travaux, il y a telle espèce qui est revenue ou pas. Enfin, voilà. Donc, en fait, on fait une comparaison avant-après qui permet de conclure que l'action, elle a été bénéfique ou en tout cas, elle va dans le sens de ce qu'on avait imaginé au départ. On peut faire la même chose en comparant aussi des sites qui sont aménagés avec des sites qui ne sont pas aménagés pour tester l'effet d'un aménagement. Par exemple, quand on a un endroit donné, on a endigué la rivière, on va comparer un site qui a été endigué avec un autre site qui n'a pas été endigué. Et puis, on va, toutes choses étant égales par ailleurs, entre guillemets, on va essayer de les prendre les plus proches possibles, les plus similaires. La seule différence, c'est qu'il y en a un qui est endigué et pas endigué. On fait les mêmes mesures. Donc, encore une fois, voilà, on va compter les espèces végétales. On va éventuellement regarder la croissance des arbres. On va mesurer un certain nombre de paramètres biologiques ou aussi physiques de qualité de sol. Et puis, on va comparer. Donc, c'est surtout par des approches comparatives. Après, il y a des collègues qui font plus de la modélisation, où là, ils vont dire, on va regarder comment se comporte le débit de la rivière en fonction des précipitations. Et puis, dans leur modèle numérique, donc une sorte de formule mathématique, en quelque sorte, on va dire, ben voilà, si je replante des haies dans mon bassin versant, ça va modifier l'écoulement de cette façon-là, et le débit à la sortie, il va être modifié de cette façon-là. Ils vont vérifier sur des sites que c'est vrai, et puis après, leur modèle, comme ça, il leur permet de tester des prédictions. Et puis enfin, la troisième façon dont on travaille, on fait ces travaux-là de modélisation, d'observation, mais on les répète dans plein d'endroits différents. Pour justement, quand vous disiez qu'est-ce qui nous autorise à dire ça, on va se dire, ben voilà, ça, j'observe que dans, je sais pas, on a regardé 100 études de restauration, et puis ben, il y en a 80% qui montrent que voilà le résultat auquel on arrive, et on va dire, ben voilà, si je regarde, dans la majorité des cas, en essayant de prendre, de vérifier que ça soit comparable. Donc, on va faire des analyses un peu bibliographiques ou des études de cas comparatives où on va aller chercher auprès des collègues qui font le même type d'études à travers le monde, forcément à l'autre bout du monde, mais dans d'autres contextes. Et on va essayer de comparer pour voir si ce qu'on observe, nous, sur des études de cas ponctuelles, c'est robuste ou si c'est un peu particulier. Et du coup, là, ça nous permet aussi de monter en généralité, de dire, voilà, ce que j'observe, moi, sur le bassin versant, ben, je ne sais pas, de l'Èdre ou de la Vilaine, est-ce que c'est particulier ou est-ce qu'au contraire, ce que j'observe, c'est assez commun à d'autres lieux. Et là, du coup, on se sent plus confiant à avoir des conclusions quand on voit que ce qu'on observe, c'est quelque chose que les autres collègues observent à d'autres endroits.
Quel impact a le dérèglement climatique sur votre travail et sur votre façon de penser ?
Alors, sur mon travail et sur ma façon de penser ?
Peut-être aucun.
Si. Voilà, c'est difficile. Il y a plusieurs niveaux de réponse. Sur vraiment la façon d'étudier les choses, ça fait émerger quand même des questions scientifiques auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Par exemple, moi, je travaille beaucoup sur la végétation de la riquissée, au bord de la berge, le long du cours d'eau. Et historiquement, cet objet-là, il a toujours été considéré voilà, comme un objet bien alimenté en eau. Il y a de l'eau dans la rivière, c'est un objet qui est humide. Et clairement, on le voit là depuis une vingtaine d'années, il y a beaucoup d'études qui sont faites et qui montrent que bah, ça a beau être en bord de cours d'eau, que les effets du changement climatique, mais pas que, hein, d'ailleurs aussi les prélèvements de la ressource en eau par les barrages, par les pompages, font que ces milieux qui étaient très humides, ils deviennent plus secs. Et du coup, ça génère des nouvelles questions scientifiques, c'est de dire comment est-ce qu'un milieu qui est par essence un milieu humide, qui s'est constitué comme un milieu humide avec des espèces adaptées au milieu, comment il répond à des changements qui sont à l'échelle de vie d'arbres, qui sont des changements rapides en fait. Donc là, d'un point de vue de la façon de travailler, ça oblige quand même à se poser des nouvelles questions, notamment en termes de dynamique, de vitesse de changement, de capacité d'adaptation, de réponse, de la vitesse de réponse des systèmes écologiques à des changements qui sont finalement assez rapides. Donc ça, c'est une première chose que ça a changé dans notre façon d'étudier, de travailler là-dessus. Ce que ça a changé aussi, c'est que ça nous a obligés à réfléchir en termes de pression multiple. Ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup de travaux faits dans les années 80-90 regardaient, voilà, quel est l'effet d'un paramètre, par exemple, je ne sais pas, construire un barrage, voilà, l'effet du barrage sur la rivière. Et puis après, on va faire une autre étude, on va regarder l'effet de l'endiguement sur la rivière. Puis après, on va faire l'effet de la pollution sur la rivière. Et en fait, l'arrivée du changement climatique dans les années 90-2000, même 80, mais surtout 90, ça a vraiment, comment dire, obligé les gens à se dire, mais en fait, la rivière, elle n'évolue pas sous uniquement la pression d'un seul changement. Tout change, en fait. L'occupation du sol, les prélèvements en eau, les prélèvements de sédiments, les constructions, l'urbanisation, le changement climatique. Et en fait, ça nous a obligés à trouver des moyens d'étudier comment ces pressions-là, elles se combinent et quelles sont celles qui sont les plus déterminantes. Est-ce qu'il y en a une qui est plus importante que l'autre? Est-ce que c'est le changement climatique? Est-ce que c'est la construction? Est-ce que c'est l'urbanisation? Et paramètre par paramètre, ou espèce par espèce quasiment, ou question scientifique par question scientifique, ça nous a obligés à trouver des moyens d'essayer d'y voir plus clair dans quelque chose qui est très complexe. Le fonctionnement des écosystèmes, on a toujours su que c'était complexe, mais là, le changement climatique, ça a beaucoup, comment dire, influencé cette question-là, quoi. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a eu quand même un effet un peu de mode aussi, un petit peu là-dessus, de mode. C'est-à-dire que la question, elle a fait éruption, elle est devenue tellement structurante qu'il a fallu beaucoup travailler là-dessus. Et ça a presque été un peu comme une injonction à dire, voilà, il faut vraiment trouver les effets du changement climatique. L'aspect positif, c'est que ça nous a obligés à rajouter et à prendre en compte la complexité. Parfois, ça nous a amené un peu à oublier d'autres pressions, par exemple les changements d'occupation du sol, qui restent l'urbanisation, la mise en culture, qui restent les pressions parfois les plus importantes, par exemple sur certaines qualités d'eau, sur certains paramètres. Parfois, ça nous a amené un peu à les minimiser, enfin pas à les mettre de côté, mais à nous concentrer beaucoup sur le changement climatique et à parfois oublier un petit peu les autres. Mais bon, c'est un peu anecdotique là, ce que je raconte, parce que c'est pas si fort que ça. Mais ça nous a un peu obligés à repenser la façon d'étudier ces objets-là.
Merci à Yoann Fenard, directeur de l'EDEN, à Jean-Claude et à Simon Dufour, enseignant-chercheur à l'Université de Rennes 2, pour leur libre participation à ce programme.
C'était L'eau, un enjeu de société. Une série spéciale de La Frappe en partenariat avec Terre des Sciences, avec le soutien de la région des Pays de la Loire.
Un reportage de Michel Sourget pour Alternante FM.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
18h17 dans le pédalo, merci beaucoup d'être avec nous. C'est l'été et nous on aime beaucoup les histoires et s'évader un peu pendant cette période estivale sur les ondes de campus. Lolo Romo, c'est un collectif et une émission diffusée chez nos amis de MNE, Radio Campus Mulhouse. Tout l'été, ils proposent des contes, des histoires et aujourd'hui, on vous diffuse une histoire de prince et de princesse.
La princesse qui ne voulait pas de prince charmant. Sur une idée originale de Clobule, qui vous est contée par Lolo Romo. Il était une fois une belle princesse qui s'appelait Marielle. Elle passait son temps à s'amuser avec ses amis, les comtes, les comtesses, les ducs et les duchesses. Elle organisait des bals masqués, des défilés de mode, des concours de bonne manière. Mais ce qu'elle aimait surtout, c'était les courses de carrosses, car elle gagnait à tous les coups. La princesse avait beau s'amuser, son père et sa mère, le roi et la reine s'inquiétaient, car elle n'était toujours pas mariée.
Papa, maman, vous avez
bravo,
vu ?
Oh, bravo ma fille.
Ça va ?
Oui, comme d'habitude, c'est bien.
Il faudra qu'on parle à la fin de la journée ensemble.
Tu sais très bien de quoi. On a déjà parlé.
De...
Oui.
Ah oui.
Et une princesse sans prince non, mais... charmant,
enfin, une princesse
lui disait-il,
sans prince charmant,
c'est comme une couronne sans diamant.
Hein ? Oui, tu m'avais déjà dit ça la dernière fois. Mais enfin, je suis encore jeune. J'ai le temps, non?
Tu n'es plus si jeune que ça, enfin.
Nous, on s'inquiète. Le royaume. Mais tu as pensé au royaume? Oui, c'est important. Ton père et moi, on s'inquiète.
Mais pourquoi est-ce qu'on est obligé d'être aussi pressé? C'est pas si grave.
Ne discute pas, enfin.
Oui. Ok.
Il est temps que ça change.
D'accord. Bon, on en reparlera une prochaine fois. Ok? Je dois y aller.
Marielle aurait bien voulu faire plaisir à ses parents, Mais que diable aurait-elle fait d'un prince charmant ? Aussi, elle déclara.
« De prince charmant, je ne veux pas. Prendre à mon cœur celui qui me résistera.
Oh, » Et s'il te plaît, ne fais pas l'insolente comme ça, hein ?
Ok. Salut.
Oh, comment tu l'as élevé ?
Mais c'est de votre faute, ma chère.
Et elle annonça à ses parents qu'elle épouserait le prince capable de la battre à la course de carrosse. C'est sûr, aucun prince à mille lieues alentour n'y parviendrait. Et elle pourrait continuer à s'amuser en paix. Le roi et la reine annoncèrent le concours dans les royaumes voisins. De toutes parts, les princes affluaient au château. Il y en avait des petits, des grands, des maigrelets, des grassouillets, des barbus, des moustachus, ah, et des chauds, bien entendu. Le roi fit tracer une piste de course et déclara le concours ouvert. Le premier candidat était le prince Herbert, un vaniteux de la pire espèce. On le surnommait Herbert la vipère. Du haut de son carrosse, il regardait la princesse Marielle avec des grands airs de vainqueur. Bang, bang, bang! Le départ fut donné. Les carrosses s'élancèrent dans un épais nuage de poussière. Marielle encourageait ses chevaux, vanille et fraises. En un clin d'œil, elle devança le sinistre Herbert. Il avait beau pester, ce qui devait arriver, arriva. La princesse gagna. Herbert la vipère était si vexé qu'il piqua une colère. Le deuxième candidat, le prince Ulrich, était prêt à tout pour réussir. On l'appelait Ulrich la triche. Il s'était fait construire un carrosse ultra rapide, car bien que le règlement l'eût interdit, il avait installé en catimini un moteur miniature caché derrière l'une des roues. Il avait toutes les chances de gagner. Bang, bang, bang! Le départ fut donné. Ulrich prenait de l'avance. Marielle suait à grosses gouttes. Quand soudain, le prince heurta un caillou et s'écrasa comme une crêpe contre un arbre.
C'est bon, les filles! Il est hors jeu!
Au grand désespoir du roi et de la reine, aucun des 100 candidats suivants ne parvint à gagner la course. Un matin pourtant, un beau prince inconnu demanda audience au roi.
« Majesté, je suis le prince Ernest. La princesse aime les défis ? Moi aussi. Si je la bats à la course de carrosse, je ne l'épouserai que si elle arrive en haut du grand chêne du village avant moi. Car... de princesse charmante, je ne veux pas. Prendra mon cœur celle qui me résistera. »
La princesse accepta cette étrange proposition. La course de carrosse commença. Ce qui devait arriver arriva. Marielle l'emporta.
Zut !
J'ai gagné.
Oh, c'est pas...
Le prince et la princesse se retrouvèrent alors au pied du grand chêne.
Ici, c'est mon domaine.
Le départ fut donné. En un éclair, Ernest avait atteint les branches les plus hautes. Marielle reçut un gland sur la tête et sonnée, ne parvint pas à l'arrivée. Elle, qui avait l'habitude de gagner, était vraiment vexée.
Oui. Il a quand même pas mal, ce garçon.
Oui, il est très bien, il est très très bien.
Et peut-être que si on organisait un deuxième tour.
Un deuxième tour, grande idée.
Vas-y.
Le roi proposa une revanche la semaine suivante. Pendant ce temps, grâce au conseil de Walter Alter, son professeur de gymnastique, la princesse Marielle s'entraîna à gravir le grand chêne. Chaque jour, elle faisait de grands progrès. Dans son carrosse, le prince Ernest, aidé par le jockey Armand Pur-Sang, tournait à en perdre la tête autour du château. Chaque jour, il allait plus vite. Le jour tant attendu arriva.
J'espère que tu t'es bien entraîné depuis une semaine. Allez, les filles. On y va!
Bang, bang, bang.
Le départ de la course de carrosse fut donné. Et là, surprise. Plus rapide que l'éclair, crème et chocolat, les chevaux du prince galopèrent tant et tant qu'Ernest gagna la course. La princesse Marielle était piquée au vif.
Allez, princesse, devant le grand chêne.
Ok.
Encouragée par Walter Alter, elle ne fit qu'une bouchée du grand chêne.
Salut.
Quoi ? Le prince, qui peinait loin derrière, dut admettre sa défaite.
Félicitations.
Ah, merci, merci, c'est gentil.
Le prince Ernest et la princesse Marielle ne s'étaient jamais autant amusés.
On a gagné. Tu t'es pas mal entraîné, hein.
Ils avaient enfin trouvé chaussures à leurs pieds.
Bravo à toi aussi, hein.
Une princesse et un prince capables de leur résister.
Un adversaire plutôt intéressant.
Ouais, ouais. J'ai eu un bon prof.
J'ai passé un moment fort amusant.
Bon, j'ai besoin de boire un petit coup.
Ouais, moi aussi j'ai soif.
Et sinon, à part escalader, tu fais quoi dans ton château?
Oh, je lis, je peins, je me promène dans la forêt, je joue un peu aux échecs aussi.
Ok, cool.
Des fois, je pêche aussi.
Tes activités sont beaucoup plus calmes que les miennes, quand même. Enfin, ça serait cool, je sais pas, pour la cérémonie, de faire un concours.
Ah ouais, un concours, bonne idée. Mais un concours de quoi?
De ce que tu veux.
J'ai peut-être une idée.
Sauf de pêche.
Ah, dommage.
Leur mariage fut célébré. Pour l'occasion, ils organisèrent une course de carrosse en équipe. Et ce qui devait arriver arriva. Ils gagnèrent l'épreuve haut la main. Cette histoire vous a été présentée par Lolo Romo, sur un texte de Clobule. Raconté par Morgan Heidman, interprété par Louane Frény, Lou Boens et Morgan Heidman. Enregistré et monté par Romain Parizeau.
Voilà un conte diffusé originellement sur MNE, Radio Campus Mulhouse, qu'on a grand plaisir à vous partager pendant cette période estivale. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous avoir écoutés. Le Pédalo termine sa traversée sur les ondes de Campus. La programmation continue sur le 103 FM. Alors restez bien avec nous et surtout n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com. Once I had a love and it was a gas. It soon turned out hot and hot a glass. It seemed like a real thing but only to find what you mistrust has gone behind. And it was divine. I soon found out I was losing my mind. It seemed like a real thing, but I was so blind. What to mistrust, love's gone behind. In between, what I found is pleasing and I'm feeling fine. Love is so confusing, there's no peace of mind. If I fear I'm losing you, it's just no good. It isn't like you do. Turned out hollow, hollow glass. It seemed like a real thing, but only to find what to mistrust has gone behind. In between, what I found is blazing and I'm feeling fine. Love is so confused.